Bonjour à tous. 4 vaccins ont été autorisés par l'Agence européenne du médicament. Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, mais toujours pas de Sputnik V à l'horizon. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
On annonçait pourtant sa découverte dès juin 2020. Vous avez donc essayé de comprendre pourquoi il a autant de retard par rapport à ses concurrents.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Nous n'avons pas besoin de Sputnik V. Les Russes sont un mal fou à le fabriquer. S'il faut leur fournir une ou deux usines pour le fabriquer, pourquoi pas, mais pour l'instant, priorité aux Européens. Parce que voyez-vous, mon objectif à moi, c'est que d'ici le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent.
Voilà, ça c'était Thierry Breton, le commissaire européen pour le marché intérieur, qui explique sur TF1 en mars dernier que l'Europe pourra se passer du vaccin russe. À l'époque pourtant, la vaccination patine encore, AstraZeneca ne remplit pas ses obligations de livraison. Certains se demandent donc pourquoi on semble si réticent à voir arriver Sputnik V. C'est pour ça que vous avez creusé le sujet, Philippe Reltien, pour comprendre ce qui se passait. Vous allez nous livrer vos conclusions, mais avant ça, faut se remettre un peu dans le contexte. Hein. On se pose d'autant plus la question que la Russie, ça a été le premier pays au monde à annoncer la découverte d'un vaccin.
En effet, au printemps 2020, les Russes sont les premiers à passer aux essais cliniques sur l'homme. Le 11 août, Vladimir Poutine proclame la Russie vainqueur de la course au vaccin, comme en 1957 à l'époque du satellite Sputnik. L'effet de surprise est total, sauf que, si l'on en croit Tara Varma, spécialiste des affaires européennes au groupe de réflexion européen ECFR, cette annonce est un peu prématurée.
L'annonce de cette victoire, elle se fait alors que nous ne sommes qu'à la phase 2, enfin qu'ils ne sont qu'à la phase 2 des essais cliniques. La phase 2, celle qui précède par définition la phase 3, qui est celle que l'on produit sur les malades. C'est là où Poutine a été assez fort, c'est qu'il n'a pas dit que ça avait été homologué ou validé ou accrédité. Il a dit « nous avons été les premiers à trouver un vaccin et à être, dans un avenir proche, en capacité de le produire ». Donc ces distinctions sémantiques, elles sont importantes parce qu'il ne dit pas « ce vaccin est approuvé », il dit « nous sommes les premiers à avoir trouvé le vaccin ». Et en cela, effectivement, il y a une forme de choc qui prend la communauté internationale, puisqu'on sait qu'il y avait des négociations en cours avec les Britanniques, avec les Américains, avec les Européens. Et les Russes sont les premiers à pouvoir dire « nous, on a le vaccin et on le mettra à disposition de la communauté internationale
ouais, ». Donc ils prennent tout le monde de court. Mais ce qu'on comprend dans ces propos, Philippe, c'est que cette annonce, c'est surtout une opération de communication.
Effectivement, d'autres auraient même pu dire de propagande. On explique que Sputnik V est le meilleur vaccin, le plus sûr. On n'hésite pas à comparer avec une Kalachnikov, sa fiabilité. Et ça continue aujourd'hui. Le 4 juin dernier, Vladimir Poutine en fait l'éloge devant les grands argentiers du monde arabe et asiatique, devant le président argentin, réunis en visioconférence lors du forum de Saint-Pétersbourg, le Davos russe. Écoutez ce qu'Alain Barluet, le correspondant du Figaro à Moscou, raconte à ce sujet à Claude Bruyot.
Lors de cette vidéoconférence, Vladimir Poutine a également fait intervenir les présidents de Serbie et aussi l'émir du Qatar, le Qatar qui était l'invité d'honneur, mais à distance, puisque l'émir n'avait pas le fait déplacement, pour rappeler le message récurrent des autorités russes « nous avons le meilleur vaccin au monde », avec un taux d'efficacité qu'ils évaluent à plus de 97%.
Ouais, ce vaccin, ils sont d'autant plus convaincus qu'il est formidable que les chercheurs qui l'ont découvert l'ont eux-mêmes testé.
Oui, le professeur Ginsburg, directeur de l'Institut Gamaleya, où a été mis au point le vaccin, annonce qu'il se l'est injecté avec son équipe. Et Vladimir Poutine laisse même courir le bruit que l'une de ses filles a fait partie des volontaires pour le tester. À Moscou, on est donc extrêmement optimiste, nous dit Marie-Paul Kini, qui est directrice de recherche à l'INSERM.
Moi, j'ai vu les gens, les jeunes qui travaillent là, etc. Ils disent, oh, ils sont super contents parce qu'ils disent que dans toute l'équipe, parce qu'ils se sont tous vaccinés, évidemment, ils n'ont eu aucun cas, alors que dans les collègues qui travaillent dans parce que c'est grand, hein, c'est comme l'Institut Pasteur, disons, Gamaleya. Dans les autres groupes, ils ont eu pas mal de cas et ils sont eux-mêmes persuadés qu'effectivement, leur vaccin les a protégés.
Donc au tout début, le Sputnik V a le vent en poupe, Philippe. Et pourtant, avant même que soient achevés les essais cliniques, eh bien un grain de sable va gripper toute cette belle machine.
Et oui, parce que pour viser le marché européen, il faut que le vaccin russe soit homologué par l'Agence européenne du médicament. Et pour cela, il faut déposer un dossier en bonne et due forme au guichet de l'agence. Or, quand on en arrive à ce stade, plus personne n'y comprend rien. D'un côté, les Russes disent avoir déposé leur dossier le 19 janvier 2021, tandis qu'à Amsterdam, où se trouve le siège de l'agence, on assure n'avoir rien reçu et ça va durer pendant des semaines. On ne sait donc plus qui croire, nous dit Tara Varma.
Le quoi qu'on a du mal à le comprendre, c'est-à-dire que plusieurs autorités russes nous fournissent avec des informations différentes. L'agence Sputnik, alors elle, l'agence d'information... De propagande du Kremlin nous dit quelque chose. Le directeur du fonds russe, du fonds souverain russe qui a permis la production de Sputnik, lui, il apporte carrément un démenti. Les Européens, évidemment, disent « mais nous n'avons rien reçu à ce jour » et se retrouvent à plusieurs reprises en janvier, en février, à dire « nous n'avons rien reçu ».
Et donc, on l'a reçu ce dossier ou pas ?
Eh bien non, en fait, il n'a été envoyé qu'au mois de février. La bureaucratie russe a dû apprendre à naviguer à travers la bureaucratie européenne. Et c'est de là que viendrait le couac, selon Marie-Paul Kini.
Ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont dû apprendre comment se passaient les demandes d'enregistrement à l'EMA, quelles étaient les procédures, qu'est-ce qu'il fallait déposer. Il faut qu'ils aient un représentant légal dans un territoire de l'Union, que c'est cette entité qui doit faire la demande. Les dossiers sont compliqués, c'est vraiment des dossiers très importants. Et donc, les Russes n'avaient aucune idée de la procédure.
Alors que Pfizer et AstraZeneca, eux, avaient déposé correctement leur dossier. Donc, c'est bien les Russes qui auraient fait traîner ?
Eh bien, tout semble l'indiquer. C'est en tout cas ce que pense aussi Tatiana Kastouyeva-Jean, directrice du Centre Russie à l'Institut français des relations internationales.
Le problème, c'est qu'en Russie, pour les médicaments qui ont été produits, il y a des procédures nationales, mais qui ne correspondent pas toujours aux procédures internationales. Et je pense que les Russes payent le prix de cela, parce qu'ils rattrapent et refont les choses qui auraient dû être faites autrement dès le début, conformément à la législation européenne.
Et le résultat, c'est que tout ça a fait perdre un temps précieux. Et pendant ce temps-là, eh bien, beaucoup s'interrogent sur les raisons de ce retard.
Oui, on a eu l'impression d'assister à un jeu de poker menteur qui a alimenté la machine à soupçons. C'est là qu'on a eu pour la première fois aussi l'impression que l'Europe jouait la montre, se souvient Tara Varma.
Très vite, un certain nombre d'oppositions européennes complotistes commencent à dire « mais en fait, les Européens sont opposés à Sputnik ». Et d'ailleurs, ce sont des éléments de langage qu'on entend beaucoup aussi aujourd'hui en Europe. Il faut que les Européens arrêtent d'être anti-russes sur le principe. Et en fait, ce que les Européens disent, c'est « on n'est pas du tout anti-russes ». Mais en l'occurrence, dans cette phase entre janvier et mars, les informations qui devaient nous être transmises ne nous ont pas été transmises. Nous avons revérifié plusieurs fois. Elles finissent par être transmises puisque... Le 4 mars, l'agence européenne dit « nous allons procéder à cette revue désormais, vu que nous sommes aujourd'hui en possession de toutes ces informations ».
Et là donc, tout rentre dans l'ordre. Le processus d'examen du dossier de Sputnik V va enfin pouvoir commencer. Mais on va le voir, tout est très loin d'être réglé.
Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors les Russes ont finalement déposé leur dossier auprès de l'Agence européenne du médicament, Philippe Reltien. Commence donc le processus d'évaluation, mais dans un certain climat de méfiance, parce qu'on s'interroge sur le sérieux de données qui ont été fournies.
Oui, en septembre 2020, puis en février 2021, l'hebdomadaire scientifique The Lancet publie deux articles. Et là, on a des doutes. Plusieurs groupes de médecins, dont des Français réputés, relèvent des lacunes ou des incohérences dans les résultats qui sont publiés.
C'est-à-dire ?
Eh bien, certains résultats semblent hautement improbables.
Mais pourquoi hautement improbables ?
Eh bien, voilà un exemple. Au cours de cette crise, on a tous entendu que le taux d'efficacité supposé d'un vaccin est fonction de l'âge des patients. Normalement, selon qu'on a 40 ou 60 ans, on constate des disparités dans l'efficacité des doses. Sauf qu'avec Sputnik V, on annonce toujours la même efficacité, ou presque, quelle que soit la tranche d'âge. Les scientifiques européens ont donc l'impression que les résultats ont été lissés, comme l'explique Jean-Daniel Lelièvre, expert en vaccins à la Haute Autorité de Santé.
L'efficacité entre les groupes d'âge est quand même très très homogène, c'est-à-dire que on a 92, 90, 91, 92, 92, et qu'on aille de plus de 60 ans à 18, 30 ans. Ça, c'est assez inhabituel quand même d'avoir une... En général, on perd de l'efficacité avec l'âge, et donc ça, c'est assez inhabituel.
C'est inhabituel, et suffisamment inhabituel d'ailleurs, pour que ça étonne d'autres scientifiques.
Oui, c'est aussi le cas pour André Gilibert, un spécialiste de l'analyse des statistiques médicales et des courbes au CHU de Rouen. Lui estime que de tels résultats relèvent quasiment du miracle.
Ça arrive que des choses qui ont une chance sur 100 d'arriver arrivent. Par contre, deux fois d'affilée, une chance sur 100 qui arrive, ça commence à devenir moins probable. Et si on combine ça avec les autres anomalies de l'article et du premier papier Spoutnik sur la phase 1-2 qui contenait aussi les anomalies, ça commence à faire beaucoup cumuler. Et c'est suffisamment préoccupant pour qu'on ait envie de vraiment voir les données, pour se faire une idée.
Oui, il a d'autant plus envie de les voir, ces données, qu'il a repéré d'autres anomalies.
En effet, le docteur Gilibert a aussi constaté ce qu'on pourrait qualifier d'erreur grossière. Il a relevé que dans certains groupes testés, le nombre de patients n'était pas le même au début et à la fin de l'essai.
C'est impossible physiquement qu'il y ait comme ça des patients qui apparaissent puis qui redisparaissent. Donc il y a forcément une incohérence dans les données. Pour caricaturer, ça arrive aussi qu'on dit ben, dans mon échantillon, il y a 50 hommes, il y a 50 femmes et il y a 200 patients. On se dit, ben, les 100 autres, qu'est-ce qui leur arrive? C'est une incohérence.
Bon, mais si c'est aussi incohérent que ça, Philippe, alors pourquoi le Lancet a publié ces résultats?
Eh bien, il semble qu'on soit un peu dans le même cas de figure que l'été dernier pendant la polémique sur la pseudo-étude sur l'hydroxychloroquine. Le Lancet a publié des données fournies par l'Institut Gamaleya. Alors, fallait-il que le journal demande davantage d'explications? C'est ce que soutiennent plusieurs scientifiques, dont Jean-Daniel Lelièvre. Et voilà comment les responsables du Lancet se sont défendus.
Ce que le Lancet dit, c'est qu'on n'a pas accès à toutes les données brutes. Mais si des experts extérieurs vous disent « là, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ce serait bien d'avoir accès aux données brutes », vous êtes éditeur d'un journal et vous pouvez dire « il nous faut les données brutes, sinon on ne peut pas publier ».
Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils sont obligés de se rétracter.
Ils ont retiré la méta-analyse qu'ils avaient fait avec l'hydroxychloroquine.
Ouais, mais ils n'ont pas retiré l'article sur Spoutnik.
Non, et ils ont également refusé de répondre à l'interview que je leur ai proposée. Je précise tout de même que lorsque la polémique a démarré, le Lancet a écrit dans ses colonnes que Spoutnik V a été critiqué pour avoir brûlé les étapes et manqué de transparence. Mais selon la publication, les résultats sont clairs, je cite, et le principe scientifique de cette vaccination est démontré.
Ce qui est possible, hein. Du reste, on peut avoir des données faussées et un vaccin malgré tout efficace, on ne se prononcera pas là-dessus. Maintenant, cet épisode a éveillé, on le comprend, la suspicion de scientifiques, et ce d'autant plus que d'autres incohérences ont été relevées.
Effectivement, de son côté, notre correspondant permanent à Moscou, Claude Brouillot, a rencontré Ilya Yasny. C'est un évaluateur de vaccins russes qui travaille pour la fondation InBio Ventures. Eh bien, lui estime que le protocole qui a été fourni par les chercheurs russes n'est pas assez précis sur la composition des groupes qui ont testé le vaccin.
J'ai vu ce protocole et un des problèmes avec lui est ce qu'il n'est pas indiqué très strictement si la personne est malade ou non. Ça donne l'espace pour les manipulations des données parce que ces critères ne sont pas trop objectifs en comparaison avec le protocole de Pfizer, par exemple, où il y a plusieurs pages qui aident à attribuer une personne à malade ou non malade.
Ah oui, donc on aurait manqué de rigueur ou de précision dans la publication de ces résultats.
Eh bien, c'est ce qu'il semble. Mais il y aurait aussi un problème de transparence, car on s'interroge encore sur les critères qui ont servi à sélectionner ou à éliminer les 20 000 volontaires qui ont participé au test. Tara Varma, qui suit la politique sanitaire de l'Union européenne, ne comprend pas pourquoi des symptômes bien connus, comme la perte du goût et de l'odorat, ne figuraient pas dans les critères présentés par les Russes.
Si vous éliminez les symptômes de perte de goût et de l'odorat, qui sont reconnus quand même par l'ensemble des institutions internationales comme des symptômes existants du Covid, cela ne signifie pas que tout le monde les a, mais quand on les a, dans le contexte actuel, et qu'on se fait tester, généralement, cela signifie qu'on est symptomatique du virus du Covid-19. Si on élimine ces deux éléments des malades qui sont examinés, ça remet sérieusement en doute la validité de l'étude scientifique.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, il y a visiblement beaucoup de questions qui se posent autour de la façon dont les études ont été conduites sur le Sputnik V. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que le vaccin n'est pas efficace. On n'en sait rien, nous. Mais on n'a pas tout dit, Philippe, parce qu'on a identifié d'autres zones d'ombre.
Oui, il y a aussi des questions sur l'efficacité du vaccin chez les plus âgés. Parce que c'est pas tout de dire qu'un vaccin est efficace à plus de 90% chez les plus de 60 ans. Encore faut-il que l'échantillon des personnes âgées testées soit suffisamment représentatif pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Or ici, à en croire le docteur Odile Launay, directrice du centre de vaccinologie à l'hôpital Cochin, ça ne semble pas être le cas.
En fait, ce qui a été demandé pour ces essais d'efficacité, c'est aux développeurs de vaccins, donc y compris à Sputnik V, c'est de pouvoir évaluer l'efficacité du vaccin dans les populations qui sont le plus à risque de faire des complications de la maladie, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et donc, cette maladie touche en priorité les gens les plus âgés, puisque c'est en fait dans cette population qu'on a vu le plus de formes graves et de décès. Quand on regarde finalement les participants qui ont été inclus dans cet essai, seulement 10% d'entre eux ont plus de 60 ans. C'est un problème parce que on sait que les vaccins sont potentiellement plus efficaces chez les sujets les plus jeunes. Donc ça nous donne pas d'informations sur l'efficacité de ce vaccin dans les populations les plus âgées. Et évidemment, c'est un problème quand on veut ensuite extrapoler les résultats.
On n'a pas assez de données sur les personnes âgées, mais on n'a pas non plus de recul sur les éventuels effets secondaires que pourrait provoquer ce vaccin.
Oui, ce qui manque là, ce sont les résultats de la vaccination dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle chez nous la pharmacovigilance. 12 à 20% des Russes ont bien reçu une première dose de Sputnik V. Mais contrairement à ce qui se passe en Europe, on n'a aucun retour sur d'éventuels effets secondaires. Et ça, ce n'est pas très transparent, nous dit encore Ilya Yasny, l'évaluateur de vaccins.
Ce qu'il manque, c'est les données de sécurité du monde réel. C'est quand on récolte les données après la registration du vaccin. Peut-être on les récolte, mais on ne les publie pas. Tout ce que nous avons, ce sont les données de l'Argentine, de San Marino, mais pas de la Russie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être 100% sûrs.
Ouais, 100% sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire, donc.
Effectivement, de même qu'on ne sait pas quel est l'impact réel de la pandémie en Russie, puisqu'on annonce 130 000 morts officiels, alors que l'OMS évalue la surmortalité à 600 000. Eh bien, on n'a pas d'informations non plus sur d'éventuels effets secondaires du vaccin, nous dit Odile Launay à l'hôpital Cochin.
On ne sait rien avec le vaccin Sputnik V. On sait avec le vaccin AstraZeneca, Université d'Oxford, on sait avec le vaccin Janssen. On sait que ces deux vaccins reposent sur la même technologie. Et quel que soit finalement ce vaccin, ils entraînent ces phénomènes, qui sont des phénomènes exceptionnels, mais qui existent malgré tout. Et pour l'instant, rien n'a été remonté avec le vaccin de Sputnik, alors que c'est la même approche. Et c'est le même, ce qu'on appelle la même plateforme vaccinale. C'est des événements qui arrivent, on pense, dans l'ordre d'un cas sur 100 000 pour le vaccin AstraZeneca, plutôt un cas sur 1 million pour le vaccin de Janssen. On n'a aucune information sur le vaccin de Sputnik V. Alors encore une fois, dans l'essai clinique, il y a eu trop peu de participants, mais si ce vaccin est maintenant utilisé très largement, on n'a pour l'instant pas de données.
Ouais, pas de données, donc beaucoup de questions, et ce d'autant plus qu'on s'interroge aussi sur la fiabilité des usines de production en Russie.
Oui, on s'interroge, notamment après ce qui s'est passé en Slovaquie, pays de l'Union européenne, qui a passé une commande de Sputnik V. Ça a d'ailleurs provoqué la démission du Premier ministre, parce qu'il a acheté des vaccins qui n'étaient pas autorisés en Europe. Mais ce qui est surtout intéressant de noter à ce stade de notre enquête, c'est qu'on a reçu là-bas des lots non conformes qui ont été signalés par l'autorité nationale de contrôle, comme le rappelle Tara Varma.
L'Agence nationale slovaque des médicaments fait savoir aux Russes que les doses qu'ils ont reçues, eux, de Sputnik V, ne correspondent pas dans leur analyse aux doses qui sont décrites dans l'article de The Lancet, publié en février 2021.
Alors, je précise qu'une contre-expertise hongroise a permis de rassurer les Slovaques et le 26 mai dernier, le pays a repris la vaccination. Mais le même phénomène semble s'être reproduit au Brésil qui, depuis, a interdit le Sputnik V.
Mais ça veut dire que la production russe laisse à désirer ?
Eh bien, c'est ce que pense Misha Roumiantsev. C'est un ancien inspecteur en Russie pour l'OMS qui connaît très bien le sujet. Lui estime qu'il existe en Russie d'excellents chercheurs, mais qui malheureusement sont peu familiarisés aux standards de qualité de l'industrie pharmaceutique de masse.
On sait que ce sont des gens sérieux. Je connais bien les gars qui font ce vaccin. Ils ne sont pas habitués à la production. Les conditions de production et de contrôle ne sont pas aussi rigoureuses en Russie qu'on le fait dans le monde occidental.
Oui, tous ces éléments interrogent donc Philippe, mais aujourd'hui on en est où? La procédure d'homologation, elle a finalement donc commencé le 4 mars, mais elle va durer combien de temps?
Eh bien, difficile à dire parce que, compte tenu de tout ce qu'on vient de raconter, on a dû tout reprendre à zéro. L'Agence européenne du médicament a inspecté une première usine en Russie le 10 mai, et ça continue. On examine tout de fond en comble, depuis les labos jusqu'aux unités de production, et ça prend forcément du temps.
Oui, du temps, on va en prendre un peu, nous aussi, pour écouter la merveilleuse voix de la jeune Céleste, et on verra ensuite que Sputnik V n'est pas le seul vaccin que les Russes ont mis au point.
I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but you could never be ignored. You could never be ignored. And I'd rather be myself, although it's nervous and unsure. Looking for your shadow in the light beneath the door. And I want you all so badly.
Tonight Tonight, c'est à la fois enlevé et sombre. C'est un titre extrait du premier album de la jeune prodige de la soul britannique qui est née, cela dit en passant, en Californie et qui répond au nom très évocateur de Céleste.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors voyons maintenant comment le vaccin Sputnik V est utilisé par les Russes, Philippe Reltien. Alors ce qu'on va constater pour commencer, c'est qu'il est beaucoup plus employé à l'extérieur de la Russie qu'à l'intérieur.
Oui, la Russie en a prévendu un chiffre astronomique de 1,5 milliard de doses, ce qui montre bien que c'est avant tout un produit destiné à l'exportation. C'est ce qu'on peut appeler aussi un outil d'influence. Un vaccin destiné à être produit et commercialisé dans le monde entier et utilisé auprès de populations qui lui seront de fait redevables. C'est en tout cas ce que pense l'ancien inspecteur de l'OMS, Misha Roumiantsev.
Le Sputnik V est employé comme instrument de géopolitique. Si vous voulez, si on compare avec un pays occidental, la France, la Grande-Bretagne, ça pourrait être les États-Unis, fabriquent nos vaccins pour la vaccination de notre population. Les parties supplémentaires qu'on a seront des dons. On va donner des excès, on va les donner aux pays pauvres. La Russie a une attitude complètement différente.
Complètement différente, c'est-à-dire ?
Eh bien, elle ne fait pas de dons. Elle vend ses vaccins et elle adapte le prix des doses en fonction de l'état des finances du pays acheteur, nous dit Tara Varma de l'ONG ECFR.
Les Russes ont été les premiers à aller voir les pays les plus touchés en leur disant qu'ils étaient prêts à leur fournir ce vaccin à un prix très bas. C'est 16 € les deux doses, donc on n'a pas tellement de visibilité sur la négociation européenne à ce jour, parce que c'était des négociations secrètes, mais on sait que, par exemple, en Israël, c'était 100 $ les deux doses. Donc on est sur un rapport qui est totalement différent.
Ouais, totalement différent, mais elle les vend à qui, la Russie, ces vaccins ?
Eh bien, aujourd'hui, elle les vend à plus de 70 pays, dont voici les principaux.
On compte la Serbie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Libye, entre autres, l'Inde, qui est du coup la pharmacie du monde, le plus gros producteur de vaccins au monde, a homologué Sputnik V et s'est engagé à produire 850 millions de doses par an.
La Chine aussi.
La Chine aussi, oui.
Ouais, la Chine qui, elle aussi d'ailleurs, vise le marché européen avec son vaccin Sinovac.
Eh oui, une concurrente de la Russie. Et on peut encore citer d'autres clients comme l'Argentine, la Turquie, le Kazakhstan, l'Iran, la Biélorussie, l'Algérie, le Venezuela. Donc souvent des pays hors Union européenne.
Ouais, hors Union européenne, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des pays européens qui en ont commandé.
Oui, on citait la Slovaquie, mais au printemps dernier, quand l'Europe se trouvait en situation de pénurie, d'autres pays européens ont décidé de contourner la règle européenne et passer des commandes dans leur coin. Ça a notamment été le cas de la Hongrie, rappelle Tara Varma.
La Hongrie a dit dès l'automne 2020 qu'elle voulait s'exclure de ces négociations et a procédé à une commande de 2 millions de doses de Sputnik V pour 20 millions de dollars, sur lesquelles uniquement 550 000 doses ont été expédiées et livrées à ce jour, donc au mois d'avril 2021. Ils ont aussi choisi d'acquérir des vaccins chinois qui ne sont eux non plus pas homologués par l'Agence européenne du médicament et leur population est très réticente, la population hongroise, à se faire vacciner.
Ouais, donc, à l'époque, c'était un peu chacun pour soi, mais aujourd'hui, la donne a changé.
Oui, grâce aux 4 vaccins homologués et aux 55 usines capables de les produire, l'Union européenne a augmenté rapidement sa capacité de production. Elle est aussi devenue la première exportatrice de vaccins au monde. Elle n'a donc plus besoin de la Russie, comme le disait Thierry Breton au début de cette émission. Et c'est ce que pense aussi la membre de la Commission Santé du Parlement européen, Nathalie Collin-Oesterle, qu'a interrogé notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin.
L'Union européenne aujourd'hui n'a pas besoin de ce vaccin russe, puisqu'on a déjà 300 millions de doses qui ont été distribuées dans les 27 États membres. 1 milliard de doses seront produites sur le sol européen d'ici la mi-juillet. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence avec le vaccin Sputnik, dont on doute d'ailleurs des capacités de production.
Bon, mais on en arrive là à la question de fond, Philippe. Est-ce qu'on a volontairement fait traîner les choses ? Est-ce qu'il y a eu dans cette affaire, de la part de l'Europe, un traitement particulièrement défavorable à l'égard de Sputnik V ?
Ah oui, vous êtes en train de me demander si on a voulu éviter de laisser entrer le loup dans la bergerie.
Ah oui.
Alors, il est vrai que tous ces atermoiements arrangent bien Bruxelles. On n'avait pas envie de devenir dépendant d'un voisin aussi encombrant dans un contexte de nouvelle guerre froide. L'affaire Navalny, la frontière ukrainienne, le soutien à la Biélorussie. Les raisons de se méfier de la Russie ne manquent pas. Sans compter que la Russie semble jouer en sous-main contre l'Europe, estime Tatiana Kastoyeva-Jean de l'IFRI.
Les Russes ont essayé aussi de désinformer et de jeter les discrédits sur le vaccin des autres, sur Pfizer et sur Moderna. Ah,
vous êtes sûr de ça? Parce qu'il faudrait qu'on ait la preuve.
Écoutez, il y a quand même des traces qui mènent vers les Russes qui ont souhaité payer les blogueurs en Europe. Mais voilà, ça a été perçu comme une diplomatie extrêmement agressive qui a augmenté le degré de méfiance vis-à-vis de ce vaccin.
Oui, alors ça légitime d'autant plus la question, Philippe, je vous la repose. Est-ce qu'on a volontairement retardé son homologation ?
Eh bien, si on s'en tient à la chronologie, ce n'est pas évident.
La chronologie, c'est-à-dire ?
Eh bien, un exemple, le 2 février 2021, Alexei Navalny est arrêté à Moscou avec des centaines de ses supporters. Et pourtant, au même moment, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, salue les travaux de l'Institut Gamaleya qui a découvert le Sputnik V. La politique n'aurait donc pas interféré dans le sanitaire, si l'on en croit Nicu Popescu, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Moldavie, qui est un spécialiste des rapports Est-Ouest.
Je ne suis pas sûr que cette diplomatie des vaccins entre l'Europe et la Russie a été vraiment très affectée par l'affaire Navalny ou la visite de Josep Borrell. Il y a eu un dialogue avec la Russie sur l'homologation de Sputnik, sur la potentielle production de Sputnik sur territoire européen et inclus en Allemagne. Tout ça a continué. Alors, je ne vois pas vraiment que cette crise diplomatique autour de la visite de Borrell ou du retour de Navalny en Russie, elle n'a pas affecté vraiment le dialogue pragmatique avec la Russie sur les vaccins.
Donc, pas d'interférence du politique pour désavantager Sputnik.
Ah bien, en tous les cas, l'Europe s'en défend en assurant que l'évaluation du vaccin suit son cours selon un processus indépendant. Et c'est ce que pense aussi Tara Varma du groupe de réflexion ECFR.
Il y a eu un certain nombre de critiques sur le fait que pour Sputnik, on allait prendre beaucoup plus de temps que pour d'autres. Ce n'est pas vrai. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, il y a eu plusieurs semaines, un peu plus d'un mois de revues scientifiques par l'Agence européenne du médicament. Pour le vaccin AstraZeneca, ce fut 4 mois. Donc, on est tout à fait dans l'ordre de temps qu'il faut. C'est une procédure extrêmement longue, vérification des usines, vérification des outils médicaux et surtout, double examen des patients qui reçoivent les doses de vaccin pour s'assurer que les données fournies par le producteur sont bien conformes.
Et on verra ce que ça donnera au final. Maintenant, on a longuement parlé de Sputnik V, Philippe. Mais ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est que la Russie, elle a mis au point d'autres vaccins.
Oui, 4 au total. Alors, il y en a un qui est censé protéger les animaux à fourrure d'élevage, susceptibles de transmettre le coronavirus aux hommes. On va donc le laisser de côté, celui-là. Mais sur les 3 autres, il y en a un qui a été testé sur l'homme en même temps que le Sputnik V, dans un endroit tenu ultra secret, le laboratoire Vector, qui est situé à 30 km de Novosibirsk, en Sibérie, et qui n'a plus été inspecté par l'OMS depuis 1989. Pour la petite histoire, il faut savoir que la France s'était engagée dans le cadre d'un partenariat à le maintenir aux normes, ce laboratoire, comme le rappelle le correspondant du Figaro à Moscou, Alain Barluet.
Il y a eu un accord en 2006 entre la France et ce laboratoire ultra secret Vector, un accord qui concernait la sécurisation des installations conservant des matériaux génétiques hautement pathogènes, comme ces souches virales d'Ebola ou de la variole. Des contacts ont eu lieu, mais au vu du contexte politique autour de cette véritable course au vaccin, les relations n'ont pas été poursuivies.
Ouais, donc les Français ont lâché l'affaire. Et c'est donc dans ce laboratoire qu'on a mis au point un deuxième vaccin contre le Covid.
Oui, c'est là qu'on produit Epivac Corona. C'est un vaccin qui est présenté comme un vaccin de synthèse auquel l'agence sanitaire du médicament russe accorde 100% d'efficacité pendant au moins 6 mois. Il est déjà proposé à la vaccination en Russie et on le trouve aussi au Venezuela. Mais un journal russe a émis de sérieux doutes récemment sur son efficacité, si l'on en croit Alain Barluet.
Le journal Novaya Gazeta, qui est un des journaux, je dirais, indépendants, vient de produire une enquête extrêmement intéressante sur ce vaccin, produit par le fameux laboratoire Vector, qui démontre tout simplement que ce vaccin est sans doute largement inefficace, que les tests ont été effectués principalement sur des lapins et que le vaccin ne produit pas, comme on dit, d'agents neutralisants.
Ouais, ce qui est quand même un petit peu embêtant effectivement pour un vaccin, pour lequel cette fois-ci d'ailleurs la Russie n'a pas formulé de demande d'agrément auprès de l'Union européenne.
Effectivement, vu les difficultés qu'elle a déjà avec Sputnik V, on imagine ce que ça serait avec Epivac Corona. Mais Moscou espère tout de même qu'il pourra être classé par l'OMS sur la liste des vaccins utilisables en cas d'urgence épidémique,
Maintenant, on ne pourra pas en dire plus sur le sujet, faute d'informations plus précises.
Ouais. Et on va s'arrêter là donc, Philippe Reltien. Merci pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire, sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer et réalisée par Stéphane Combe. Jean-Baptiste Audibert a choisi la musique et à la technique, il y avait Florian Dorimini. Je vous souhaite un excellent week-end. Je ne vous dis pas à samedi prochain, mais bien rendez-vous au 4 septembre et passez un très bel été d'ici là.